Il faut quand même rappeler, Ulysse, il y a quelques jours, on avait l'impression que Donald Trump était prêt à tout céder à Vladimir Poutine. Là, il y a clairement un changement de ton. Je disais, il se dit prêt à mettre la pression. Il y a même une forme de menace dans ses propos aujourd'hui. Est-ce que Vladimir Poutine est du coup en train de répondre à Donald Trump avec ses images en faisant étalage d'une forme de démonstration de force?
Il ne faut pas oublier que pour Poutine, il y a deux objectifs. Il y a d'abord la reconnaissance d'un nouveau statut de dirigeant international, qui n'est plus le paria dont on parlait tout à l'heure et qui est l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Mais c'est aussi la levée, je dirais presque surtout la levée des sanctions américaines et européennes. Donc il y a de la part de Trump là une menace très claire. Quand il parle de répercussions financières, on peut tout imaginer. On peut dire par exemple feu vert des Américains pour puiser dans les avoirs russes. Hein, plus de 300 milliards de dollars, ou 200 milliards de dollars, qui sont dans des coffres quelque part dans le monde, mais qu'on pourrait utiliser pour soutenir l'Ukraine. Il y a la menace, effectivement, de faire baisser les prix du pétrole pour épuiser un petit peu plus la Russie. Puis, il y a, effectivement, l'hypothèse de renforcement des sanctions qui ont déjà été évoquées il y a quelques temps. Il y a des sanctions américaines, il y a des sanctions européennes. C'est important parce que pour les Européens, c'est quelque chose à venir. Hein. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait un accord de paix et que Trump lève les sanctions américaines, que feront les Européens? Est-ce qu'ils seront obligés de les lever aussi? Et ça, Poutine le sait bien. Alors, dans ce contexte-là, qui est un petit peu, je dirais pas le durcissement de Trump à l'égard de Poutine, mais enfin d'un langage un peu plus ferme, Poutine, il est effectivement face à un vrai dilemme. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Il ne peut pas négocier quelque chose sans avoir libéré, entre guillemets, hein, j'emploie ces termes, les terres russes. Ouais. Là, parce qu'il a conquis une partie du Donbass, il a envahi le Donbass, mais on lui a pris une partie de son territoire. Donc c'est vital. Et vis-à-vis de son armée, de son peuple et de lui-même, c'est inacceptable. Donc on comprend qu'il ait cette volonté d'aller vite. Alors est-ce que ça se fera dans la nuit ou dans les jours qui viennent? Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu qui est politico-militaire actuellement.
Je reviens sur les leviers d'action économique que vous évoquiez il y a un instant. Claude Blanche-Maison, sous l'ère Biden, les États-Unis ont infligé de lourdes sanctions économiques aux Russes. Ça ne les a jamais fait infléchir. Pourquoi là, ça changerait?
Oui, effectivement, je crois que le débat, il existe à Moscou, et d'ailleurs Moscou, le Kremlin se donne du temps, puisqu'il dit pour le moment qu'il attend de recevoir la proposition américaine, qu'il attend l'arrivée d'un envoyé, qui sera probablement Rubio, sans doute. Mais Rubio, évidemment, il va tomber sur qui? Il va tomber sur son homologue, c'est-à-dire Lavrov. Or, il se trouve que Lavrov est parmi les durs, qui a toujours énuméré les conditions d'un cessez-le-feu, qui sont des conditions très, très dures. Il y en a au moins 5 très importantes. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soir, sur notre antenne, sur votre antenne, l'ambassadeur de Russie à Paris a justement énuméré ces conditions. Et il les a énumérées de la façon la plus dure possible. Et Monsieur Mechkov n'est pas vraiment un perdreau de l'année parce que il a été 2 fois vice-ministre au MID et qu'il est à Paris depuis 7 ans et demi. En répondant à l'interview de BFM, il a été d'une extrême dureté. Et comme ça n'est pas un débutant, il avait dû téléphoner avant à Moscou pour savoir quelle était la ligne et ce qu'il devait dire sur votre antenne. Et il a tenu les propos les plus durs possibles.
Alors justement, on va l'écouter, l'ambassadeur de Russie en France. On reviendra effectivement sur les conditions en matière de négociation de trêve, mais sur l'acceptation d'une trêve, il a répondu à cette question. Écoutez, on n'y est pas encore.
C'est encore trop tôt pour donner des évaluations. Les accords entre la partie ukrainienne et la partie américaine ont été conclus, mais la partie russe n'a pas encore été informée sur les résultats de ces négociations en Arabie Saoudite à Jeddah. La partie russe s'est toujours prononcée pour une solution diplomatique et politique de ce conflit.
Voilà, bon, il attend les détails pour le moment, c'est ce qu'il dit. Et effectivement, il a posé ensuite les conditions pour un accord qui reste inchangé. Je les énumère, une non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, le non-déploiement des troupes de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, le renoncement à toute manœuvre ou exercice de l'OTAN sur le territoire ukrainien, entre autres les positions qui n'ont pas changé et qui sont toujours extrêmement...
Et il a ajouté, Zelensky est-il légitime?
Et voilà.
Le vrai président devrait être celui qui a parlé de la Rada.
Alors voilà, justement, Elsa, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'effectivement, Vladimir Poutine a toujours rejeté l'idée d'une trêve. Est-ce qu'il pourrait accepter en posant des conditions, notamment par exemple, je ne sais pas, la suspension de l'aide militaire ou l'organisation d'élections en Ukraine.
Oui, parce que maintenant, la balle est certes dans le camp de la Russie, pour ne pas paraître belliciste, mais ça veut dire que la Russie a les cartes en main pour vendre très cher son adhésion à cette idée de trêve, et pour vendre encore plus cher l'adhésion à une paix durable, et donc à ce qui pourrait être un traité de paix. Dans la tradition, disons, diplomatique russe, le cessez-le-feu est intéressant en cela qu'il permet d'activer ou de réactiver régulièrement la crise quand on en a besoin. Donc, je suis plutôt encline à penser que les Russes vont demander tous les détails, vont jouer sur les réglages de tous ces petits détails avant d'accepter un cessez-le-feu, et ils vont le faire payer très cher. Quant à la menace de sanctions, personnellement, je pense que c'est véritablement une mise en scène. Pourquoi ? Parce que, en fait, le commerce russo-américain s'est réduit comme peau de chagrin depuis 3 ans. Il reste 16 milliards de dollars d'échanges. C'est très peu. C'est moins de 5% du commerce des États-Unis et moins de 4% du commerce de la Russie. Donc, c'est pas ça.
Donc, c'est du vent, ces menaces de sanctions.
Pas du vent, c'est une mise en scène.
C'est une mise en scène
donnant à croire que Donald Trump peut être aussi brutal vis-à-vis de la Russie qu'avec d'autres dirigeants mondiaux, et personnellement, je demande à voir.
Mm-hmm. Ulysse, demain, il y a l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, qui est attendu à Moscou. Qui sera son interlocuteur et que peut-on attendre de cette rencontre ?
C'est une bonne question, mais comme c'est un envoyé spécial extraordinaire, entre guillemets, ça ne devrait pas être Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, c'est plutôt le conseiller pour la sécurité nationale de Poutine au Kremlin, avec lequel il devrait s'entretenir. Parce qu'en fait, c'est l'envoyé de Trump. Donc, c'est vraiment l'empereur qui envoie son émissaire, qui va être reçu par le tsar. Et donc, le tsar lui-même pourrait peut-être le recevoir, pas forcément publiquement, mais ça paraît peu probable. Par contre, il va discuter avec les hommes qui sont autour de Poutine et qui font les décisions. Donc, ça va être extrêmement important. Et parce que tout à l'heure, l'ambassadeur faisait référence à l'interview de Benjamin Duhamel ce soir, il a dit « le diable se cache dans les détails » avant même d'avoir le texte. Et donc, il dit très prudemment « attendons effectivement ce texte ». Et c'est dans les détails que va se faire la négociation. Mais je crois quand même que là, il y a une pression américaine qui est très claire. Les Ukrainiens et Zelensky en premier ont finalement accepté un certain nombre de conditions des Américains. Maintenant, c'est au tour des Russes de répondre. Et là, il pourra pas faire durer les choses trop longtemps. Il est placé devant une sorte de choix. Et il faut pas oublier non plus qu'en Russie, c'est vrai qu'il y aura une manifestation très forte des ultras, des militaires, des blogueurs militaires, des commentateurs de la télévision russe qui vont dire « on va pas céder comme ça à l'Amérique, on doit se battre jusqu'au bout pour défendre la patrie ». Mais Poutine doit aussi penser à l'avenir. C'est-à-dire, moi je parlais de sanctions tout à l'heure, c'est surtout, ce qu'il veut, c'est la levée des sanctions. Mm-hmm. Effectivement, s'il y a de nouvelles sanctions américaines ou européennes, ça sera pas très grave, il est habitué. Mais par contre, le fait de les lever, ça serait un extraordinaire résultat pour lui.
Les Américains en route pour le Kremlin. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui affirme d'ailleurs aujourd'hui qu'un échange téléphonique est possible dans un délai assez court entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Merci à tous les quatre d'avoir été nos invités ce soir.